Alors reprenons donc notre deuxième paragraphe de cette de la deuxième phase. Veine, Ratzon Hashem, Mitgala lanu b'shtei ma'arot. La volonté de Dieu se révèle à nous à travers deux dimensions, deux médiations. Ma'aracha achat b'ma'aseh b'reshit. La première médiation, c'est la création, l'œuvre du commencement. Ba'olam shenibra be'asara ma'amarot. Dans le monde qui a été créé par les dix paroles. Et c'est l'objet de la science ainsi définie comme tout à l'heure, de découvrir la volonté de Dieu de cette première dimension. Uma'aracha shniya, la deuxième médiation, Bema'amad ar-Sinaï, au moment de la révélation du Sinaï. Ba'Torah shenitna ba'aseret adiberot, dans la Torah qui a été dévoilée dans les dix commandements. Et vous voyez la différence des expressions. Asara ma'amarot, l'œuvre de la création du monde. Asereta diberot, la révélation de la Torah. D'un côté, la loi scientifique, de l'autre côté, la loi morale. Avec toutes les implications que la science comporte, avec toutes les implications que la morale comporte. C'est-à-dire, d'un côté, la lecture du monde, qui est l'objectif de la science, comme ça est dans notre culture. Eh bien, nous dévoile la volonté de Dieu comme créateur de la maison de l'homme, du monde comme demeure de l'homme, et comment il fonctionne, ce monde. De l'autre côté, à travers la révélation de la Torah, c'est l'homme qui est en question, le fait humain, et donc sa personne, le sujet qui habite la demeure du, la demeure. Ne voir dans le monde qu'une demeure, et ne pas voir que cette demeure a été construite pour un homme, ça c'est précisément le piège dans lequel est tombé le déterminisme, matérialisme philosophique. Ne voir qu'un homme désincarné, littéralement, en dehors de son environnement qui est le monde que ce même Dieu a créé, serait tombé dans un spiritualisme désincarné. Ce que je dis là est très, très schématique et banal, mais nous allons voir ça beaucoup plus profondément dans la manière dont le Rav Hofner nous montre ce conflit de ces deux polarités lorsque l'une se coupe de l'autre. Et nous verrons que c'est asymétrique. C'est asymétrique et je m'en explique immédiatement. Alors, avant. Idée veide, là et là, Gilui Retsono Shemako, se trouve la révélation de la volonté du Créateur. Gilui Retsono Shemako, même. Et là, mais chez Yeshev Delpunimi, mais il y a une différence profonde, intérieure. Mais au fan yeti atam inakoach la poire, dans leur passage à l'acte. C'est-à-dire, comment l'une et l'autre des aspects, des dimensions de la volonté de Dieu unique se réalisent là et là. Des ratzon Hashem, hamid gale bema'ase bereshit. La volonté de Dieu qui se dévoile dans l'œuvre du commencement, l'œuvre de la création. Ou fan ki umohu bederech echrea. Sa manière d'être, c'est ce que nous avons, nous, le déterminisme. C'est-à-dire, la formule de l'expression de la volonté de Dieu à travers le phénomène du monde me contraint. Je ne suis pas libre devant une loi que Dieu a voulu dans le fonctionnement des phénomènes. Ce que nous appelons la détermination, le déterminisme. Voilà un exemple très simple, la loi de l'apesanteur. Dieu a voulu qu'il en soit. La loi de l'apesanteur me contraint. Je ne suis pas libre devant la loi de la présence. C'est clair ? C'est-à-dire, je reçois la volonté du Créateur à travers le monde dans la détermination. Le Rav Hofner va prendre l'exemple, Yehior. Yehior, que je veuille ou pas, quand il fait jour, il fait jour, quand il fait nuit. Ça ne dépend pas de moi. Je ne suis pas libre devant cela. Ça ne dépend pas de ma volonté. Et la science va dévoiler la volonté du Créateur en tant que détermination sur ma conscience. Alors que Ratzon Hashem Amid Gala Betorah, ma Torah, la volonté de Dieu qui se dévoile dans la Torah, au fan qui nous monte derrière Bechira, sa manière d'être, c'est la liberté, c'est-à-dire elle me laisse libre, elle fait de moi d'ailleurs l'être libre. C'est-à-dire, lorsque Dieu dit, on va suivre le Rav Hofner, Yehio, que la lumière soit, Zehu ma'amar amitkayem bederech chok metzimut shelech reach. Que la lumière soit, c'est une parole de la volonté de Dieu qui se réalise dans la détermination. Elle m'oblige, plus que m'oblige, elle me contraint, elle me détermine. Que les choses soient comme elles sont, c'est cela la volonté du Créateur, et bien cela, je ne suis pas libre de moi. Le cas du miracle étant un cas particulier qu'on ne va pas étudier ici, si c'est nécessaire d'aménager la place de la notion de miracle, nous pourrons le faire aussi, mais voyons d'abord un monde sans l'éventualité du miracle. Dieu a institué les lois de fonctionnement du monde, et bien mon sujet, ma personne humaine n'est pas libre devant ce fonctionnement. C'est ainsi que le monde métarché fonctionne, et je ne suis pas libre. Tandis que l'otishtahave, tu ne te prosterneras pas devant des idoles, zuhi bibra, c'est une parole de la volonté de Dieu, qui se réalise par la voie de la volonté, de la liberté de ma volonté dans son libre arbitre. C'est clair ? C'est-à-dire la loi de nature me contraint, sans exception, détermine. La loi morale m'oblige, elle me laisse libre. Voilà les deux, la deux différences. Hormat adeba, il en est dit que la science de la nature, c'est évidemment Hormat afokim, la sagesse, je dirais la science, des lois, chez Ratzonachem, de la volonté de Dieu, chez Nikalou, la nouvelle Asarama Amaot, qui se révèle à nous à travers les 10 paroles du commencement. Aval, mais, Nihrivam, puisque, parce que, chez Chokma, nous, que cette science, Enena Rak Chokma, Hak Chokma, elle n'est que la sagesse, la science, Ratzonachem, de la volonté de Dieu, chez Nidgala, qui se dévoile, la nouvelle, à nous, Aliede Matan Echrea, à travers le déterminé. C'est pourquoi elle est appelée la sagesse extérieure, je dirais du monde extérieur. Oui. Les sciences sont appelées Chokhmot Chitsoniot, les sagesses extérieures, parce qu'elles sont les sagesses du phénomène dévoilé dans le monde extérieur, manifesté dans le monde extérieur, et sous la catégorie de la détermination. Les Gabé à Chokhmot Torah par rapport à la connaissance de la Torah, à la sagesse de la Torah, à la science de la Torah, Asheri Chokma Ratzon Hashem, qui est la science de la volonté de Dieu, Shenit Galanou, qui se révèle à nous, Alidé Matal Herut, dans le don de la liberté, Zehu Mouvano Shela Inyam, c'est la raison pour laquelle Bilshon Hachamim, dans le langage de nos maîtres, de nos sages, Kouroui même Kola Chokmot, toutes les sciences, toutes les sagesses, Milevat Chokhmat HaTorah, sauf celle de la Torah, sont appelées Chokhmot Chitsoniot, les sagesses extérieures. Elles sont de l'extérieur à la Torah, première lecture saine, mais elles sont surtout les sagesses du phénomène du monde extérieur, du phénomène du Nigré, de ce qui est dévoilé, manifesté dans le monde de la représentation, qui est à la fois celui de la vie extérieure et celui de la détermination. Soumis aux lois de la détermination qui étudie les sciences extérieures. Nipene, chez Pnimiyu, parce que, cela vient de ce que, Pnimiyu, Tochnam, l'intériorité et le fait d'être intérieur, chez Asara, Aseret Amarmarot, des 10 paroles du commencement, et Aseret Amarmarot, ça c'est les 10 commandements. C'est-à-dire, l'âme du monde est dévoilée dans la Torah du Sinaï, alors que le corps du monde est dévoilé dans les 10 paroles du commandement. La science étudie, vraiment, faites attention à l'expression que j'emploie ici, c'est une image. Hein. La science étudie le corps du monde, mais la Torah parle de l'âme du monde, c'est-à-dire l'homme. Il faudrait dire au lieu de âme, prononciation spharadite, homme, prononciation absolue. Mais c'est la même chose, comme vous le savez. Himlo, et voilà le verset, Himlo Beriti Yomam Valaila. Si je n'avais pas créé le jour et la nuit, qu'est-ce que c'est que cette création de Yomam Valaila? C'est la Torah, Ve'agitabo Yomam Valaila, la Torah qu'on doit étudier le jour et la nuit. Hokol Shamaim Varet Vosan, je n'aurais pas institué les lois du ciel et de la terre. C'est
vrai?
C'est pas mon alliance. Quelqu'un? Il y a un Mahamar de Targum là-dessus. Oui. C'est un ridouche. Hein? ואם לא בריתי יומם ולילה, לפשט זה נטס, מון אליאנס. כי אליאנס זה לתורה, ומה שתחדוי כמו זה יראה, אם לא בראתי, איזה נבפה, קרה אליאנס זה לתורה. חוקו שמיים וארץ וסת. זה בדיוק, כדי דבר, de la nature dont était placé, que pour stabiliser le monde où l'être libre doit vivre selon la Torah. C'est-à-dire qu'il y a un lien très étroit entre la Torah et la stabilité du monde régie par les lois de la nature. Quel endroit ? Voilà l'explication du Ravoutner. L'onit gala kadosvan hu bematana echreach. Dieu ne s'est dévoilé, révélé dans l'imposition du déterminisme, si j'ose dire, que pour faire exister un endroit, une place, un monde, une demeure, les galopes de Matan la Torah, pour se révéler comme donnant la Torah. C'est-à-dire, nous avons déjà une différence entre la volonté de Dieu comme créateur du monde et la volonté de Dieu comme révélant la loi morale. L'un prépare l'homme. Il y a d'abord le fait que Dieu fabrique un monde, et donc la manière dont il a fabriqué nous révèle sa volonté en tant que créateur, mais afin que ce monde soit la place, l'endroit où sera situé l'homme à qui Dieu se révèle de personne à personne, si j'ose dire, pour lui révéler sa volonté du point de vue de la conduite que je vous appelle morale, mais qui implique la dimension aussi culturelle, spirituelle, religieuse, tout ce qui est le propre du phénomène de la vie intérieure, du fait de la vie intérieure. Vous voyez, nous avons donc énormément de catégories que le Ravoutner récapitule ensemble. Et alors, quel avait-il ? Alors, nous avons deux possibilités, trois même. Soit, on arrête là la lecture, et je vous donne la parole s'il y a des éclaircissements. Soit, je vous donne pas la parole, et on continue la lecture, jusqu'à midi et demi. Soit on va jusqu'à 1h15, et on fait les deux.
1h15,
et on fait les deux. Bon, alors si vous avez jusqu'à ce point de l'analyse des questions, on va s'en occuper, sinon j'avance pour qu'on avance dans le progrès de l'analyse.
Est-ce qu'on reviendra à la corne de bœuf ?
Ah oui, on reviendra à la corne de bœuf jeudi et vendredi.
Mercredi.
Mercredi, jeudi, pardon, je suis décalé avec le lundi, mardi. C'est ça, mercredi et jeudi, c'est ça. Mercredi et jeudi.
C'est le texte du Maharal qui pose cette question.
Oui. Alors, je crois qu'on peut avancer, si vous voulez. Donc. Vezehu Maharal, c'est cela le cheminement, les Asbir le Atzmenu, qui nous permettra d'expliquer à nous-mêmes, de nous expliquer, et de Varav Shel Maharal, l'enseignement du Maharal, qui a Yavanim, que les Grecs, Mitnagdim Hem le Israël, s'oppose à Israël, Davka, précisément et uniquement, enfin, l'Avdavka, précisément, si vous voulez, comme s'il y avait Daika, Mitzat Koach Chokma Meuchad le Yavan, du point de vue de la force de sagesse propre, spécifique à la Grèce. J'explique de façon un peu anticipée, c'est ceci. La Grèce, le génie culturel grec, va nous donner le moyen d'explorer le monde des 10 paroles du commencement, c'est-à-dire le monde de la nature. Et par là, il va être l'explorateur de la volonté de Dieu comme créateur. Mais il va être aveugle à l'autre aspect de la volonté de Dieu qui se révèle au Sinaï, la loi morale, la Torah. Et en tant qu'il devient spécialiste du premier aspect, il va s'opposer à Israël en tant que spécialiste du deuxième, grosso modo. C'est la première donnée. Jusque-là, c'est pas encore très grave. C'est une querelle de spécialistes, si j'ose dire. Mais voilà que va apparaître le propos de la philosophie grecque, qui va vouloir, au nom du premier critère, le déterminisme, auquel la conscience grecque est seule sensible, projeter sa propre mentalité dans le problème de la liberté, c'est-à-dire le problème moral, et se substituer à la vision d'Israël. Vous voyez que nous atteignons déjà le principe en tant que comment ? En même temps, la science grecque est légitime, mais la philosophie grecque est privée. Parce que la philosophie grecque s'est projetée dans le domaine du Sinaï, propre à la prophétie hébraïque, les critères propres et légitimes du premier domaine, c'est-à-dire l'exploration des phénomènes du monde. Voilà, là nous sommes déjà au cœur du principe, mais je reviens maintenant plus en détail. Alors, comme pour lui, l'idéat riboum de l'ikot nafsha, par le fait de l'intensité d'attachement de leur personne chez Yavanim des Grecs, des Chokhmat Ateva au sens de la nature, à chez Zéou Aïkar, qui est l'essentiel du propos de la sagesse grecque, qui est sensible de façon spécifique et intense à l'aspect ordonné, déterminé de l'apparence du monde, exception faite du phénomène de la personne humaine. Et encore une fois, ça ne signifie pas qu'intellectuellement, le grec n'était pas capable d'envisager l'hypothèse hébraïque en tant qu'hypothèse intellectuelle, à tout le moins, mais il l'a rejetée comme incompatible à ce qu'il voit dans le phénomène qu'il appelle cosmique, dans le phénomène déterminé naturel. Pour vous donner une formule qui peut toucher un exemple de ces problèmes, le problème de la liberté. Ça m'a beaucoup frappé. Le philosophe grec aurait pu envisager l'hypothèse de la liberté de l'homme, mais il l'a rejetée. Pourquoi ? Parce que c'est incompatible avec la règle des autres phénomènes de la nature. Étant donné que la nature est déterminée, qu'il y a déterminisme dans le monde, il n'y a pas de raison que le phénomène humain fasse exception. Or, il y a du déterminisme, donc la liberté humaine ne serait qu'une illusion. Du point de vue de l'option grecque, lorsqu'un philosophe croit dans la liberté humaine, il y croit d'autre part que de sa mentalité philosophique. Parce que pour sa mentalité philosophique dans sa cohérence propre, étant donné qu'il y a déterminisme, il n'y a pas d'exception, donc le phénomène humain aussi est déterminé. Est-ce que c'est bien clair? Oui. Voilà un exemple de ce qui se passe là. La fascination de la conscience grecque pour son propos propre, c'est-à-dire la volonté de Dieu à travers la détermination, lui fait nier l'autre aspect. Il y a un phénomène de déformation professionnelle, si j'ose dire, dans cette mumkhiyout, dans cette spécification des tâches. L'homme de science, pour le dire en termes de culture générale, l'homme de science, tellement confronté avec l'évidence de la détermination, qu'il ne peut pas entendre ce que lui dit l'homme de l'esprit lorsqu'il lui parle de la liberté. Parce que, c'est des rêveries, c'est de la mystique. La réalité est telle que je ne peux pas entendre ce que toi, l'hébreu, tu me dis en parlant de l'être libre et donc du projet moral du monde. Parce que je ne vois que les phénomènes déterminés. Et, vous voyez, envahissement du principe du déterminisme dans tout l'ordre de la réalité et dans cette partie de la réalité qui est objet de la révélation du Sinaï, la personne humaine, il y a ici envahissement illégitime. Vous voyez que nous avons de nouveau ce thème qui était en filigrane tout à l'heure, qu'il y a un domaine où la science et la mentalité scientifique venue des Grecs est légitimement chez elle, mais un domaine où elle est illégitime. Comme nous avons vu, la langue grecque est capable de dire la beauté du monde, mais la pensée grecque va dire cette beauté en termes, en fin de compte, de statistiques mathématiques et va assassiner l'esprit et va l'envahir d'obscurité. La conscience grecque est tragique. Cette même conscience qui dévoile la cohérence du monde déterminé. Cette même conscience qui dévoile la logique du monde déterminé dévoile l'arbitraire du monde humain. C'est pourquoi la conscience grecque, sensible à la beauté, sera esthétique, mais dans le même mouvement, elle sera tragique. Alors que la conscience hébraïque, comme nous allons le voir, a son expérience propre et qui est au-delà de cette définition. J'avance encore assez rapidement. Kloma, je prends à la fin de la deuxième ligne du dernier paragraphe de la deuxième page. Kloma, comme pour vous, l'Ipéa Tribune de Vikut Narsha, c'est à cause de l'intensité de l'attachement de leur personne chez Yavanim des Grecs, vers Hormatateva, au sens de la nature, à faire Zéo, Ika, Inyana, chez Enfant Yavan, et nous savons, dit le Ravoutner, que c'est ça l'essentiel de la sagesse grecque, Nishtal Tabael a dominé sur eux, à Speklaria, chez la Echrea, la conception du déterminisme. Mais Haré, Aspeklaria, cette conception, mais Fakaati, Mideshorchea, Shel Torah, elle a tendance à arracher les racines de ce que nous entendons par la Torah, שכל עצמה אינה מתקיימת, donc tout l'essentiel de la Torah ne se base que et la mitzvah mitoch matan ha'chirut davka, au contraire sur la notion de liberté. Et quand on nous magayim, et là nous atteignons et à ofi ameyuchad sheyesh la au caractère spécifique particulier qu'il y a à midna gluta sheyavan Israël, à l'opposition de ce que j'appelle donc maintenant la culture grecque, la conscience grecque à Israël. דווקא מפני שהזה לעומת זה, וסרט, et pour précisément cela, pour ce principe qui est formulé par l'expression זה לעומת זה, ceci est corollaire de cela. זה לעומת זה. Il y a Israël pour le monde de la Torah, il y a Yavan pour le monde de la nature. זה לעומת זה. Ceci face à cela, chez Yavan clapé Israël, de Yavan, le vis-à-vis, disons, le face-à-face de la Grèce vis-à-vis d'Israël, ou bekoach ha-chokhma, par le fait que la rencontre, l'opposition, le lien de rupture, si j'ose dire, de la Grèce est au niveau de la sagesse et de la science, mais chokhma ha-ri, et la sagesse c'est quoi? La science c'est quoi? Askut ba-hakirat ratzon Hashem. Dans les deux cas, c'est s'occuper de la recherche de la volonté de Dieu. Ou mimila yeshkan nekudat magar, par là même il y a un point de jonction, chef derech meshutefe, de collaboration, mais qui va chez gam chukat evar, puisque même les lois de la nature, les gam chukat torah, même les lois de la Torah, gilou retsono shel makom, c'est dans les deux cas la révélation du même Dieu unique selon nous. Et là, mais chez afalpi, chez yesharim darke Hashem. Mais bien que son droit les voies de Dieu, les gam approchés, les gam tzadik omdim mitzod à l'auteur derer, et que même le pécheur et même le juste se tiennent marchant sur le même chemin, mikomakom poche et mikatura. De toutes les façons, ceux qui sont en eux-mêmes des pécheurs trébucheront. C'est-à-dire, alors que grecs et juifs vont sur le même chemin de l'exploration de la volonté de Dieu, le grec, qui dans son être profond, va nier la liberté et la responsabilité morale, lui, suivant cette recherche de la volonté de Dieu, va arriver à la conscience tragique, à être apikoros, à nier toute justice dans le monde, et donc possibilité pour l'homme et devoir d'être juste et ramener le monde à l'obscurité morale. Vous voyez ce qui, comment j'ai anticipé un peu déjà sur l'analyse. Ou de, dit de façon un peu plus philosophique, alors que l'objectif de ces deux intelligences, l'intelligence de l'âme grecque et l'intelligence de l'âme hébraïque, était de découvrir la vérité du monde selon le Créateur, eh bien, les uns vont ne voir que le déterminisme, et les autres vont voir le déterminisme dans la maison, dans la demeure de l'homme, mais la liberté dans l'habitant du monde. Et d'où vient cette différence? Cette différence, vous allez dire, Rabbinère, elle vient déjà d'une option préalable quant à la moralité. C'est parce que l'âme grecque a fait de son intelligence une intelligence à œillère qu'elle ne voit plus le monde qu'avec ces œillères-là. Est-ce que c'est clair jusque-là? Vous avez bien compris ce que je veux dire. C'est-à-dire que la différenciation s'est faite a priori sur une option morale. Alors, celui qui en lui a l'option de la hepkerut morale, de la non-moralité de la vie, ne voit dans le monde que la détermination, et c'est-à-dire au niveau du phénomène humain, la hepkerut, c'est-à-dire l'arbitraire. C'est-à-dire le monde qui est décrit ici, schématiquement, parce qu'il y a des nuances énormes dans les écoles grecques, mais le monde qui est décrit ici de façon minimum, c'est un monde déterminé, lieu de hasard. Au fond, c'est presque, si vous voulez, le cabaret. Voilà comment le grec voit le monde idéal. Un cabaret avec théâtre, jeu de hasard, et puis à la fin de la nuit du cabaret, cette infinie désespérance de la conscience tragique de la dérision du monde. Vous voyez à peu près, c'est ceux qui se souviennent des Midrashim, lorsque Rebecca portait en son sein et Jacob et Esaü, eh bien, lorsqu'elle passait devant un cabaret, c'est Esaü qui voulait sortir. Alors que lorsqu'elle passait devant j'allais dire une synagogue, mais en français ça n'a pas de sens, un bêta midrash, c'est Jacob qui voulait sortir. C'est extrêmement frappant de voir comment la Midrash a diagnostiqué que la vision grecque du monde. C'est-à-dire cette espèce de monde où tout est absolument déterminé, mais pour l'arbitraire du hasard, la jouissance corollaire et la grande désespérance tragique du réveil des lendemains de fête. Vous voyez à peu près la description qui vient. Bon. Et vraiment, à Paris, nous sommes en plein. C'est ce cas-là, le cas barré. C'est complètement barré. Au point de départ, une proximité très grande dans le projet grec et le projet très rapidement, sur le même chemin, les uns vont marcher alors que les autres vont trébucher. C'est moi qui ai ajouté déjà à l'avance, en m'appuyant aussi sur d'autres chapitres du Ravoutner et du Maharal, que c'est parce que déjà, le regard porté sur le monde procédait d'une conscience qui avait déjà choisi sur le problème moral. Ça m'a beaucoup frappé dans mes études de la conscience grecque. La conscience grecque, et c'est vraiment très riche dans Platon, le bien, c'est la valeur suprême. Le bien est beau, le bien, c'est la valeur, mais il n'est qu'à contempler, parce qu'il est impraticable. Vous voyez, il y avait déjà une option préalable de la découverte de ce que la Ravoutner appelle ici la volonté du Créateur, et donc, c'est déjà un homme déçu de la moralité, qui va voir le monde comme déterminé lieu de hasard. Déterminé, encore une fois, ils font de la science des lois de la nature, lieu de hasard, en fin de compte, ce qui mène à la conception du monde propre, à ce qu'il y a dans toute philosophie de philosophie existentielle et à l'existentialisme à proprement parler. Si vous voulez, ce grec dont nous parle le Ravoutner ici, c'est d'emblée celui qui va fonder et la science et l'existentialisme. Vous voyez à peu près le diagnostic un peu contemporain que nous pourrions faire. C'est-à-dire, cette espèce de certitude terrible que les lois du monde sont les lois. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'exception, détermination absolue. Et puis, dans ce monde est si déterminé, la Ephkerut complète, et cet homme-là est apikoros, dans le sens étymologique. C'est à la fois, si vous voulez, la chance, comme en ont parlé les Grecs, on est heureux que par chance, et la vision du hasard pour le phénomène humain, le hasard des séries de causalités, et puis surtout cette espèce de dimension très tragique que nous allons retrouver dans les mythes religieux des Grecs à l'origine, et surtout dans le mythe chrétien qui en procède, c'est le mythe de la conscience tragique, le malheur de l'homme, la vallée de l'arbre, et pas seulement tout ça, pas seulement que ça, et puis cette espèce de... Ça éclate dans Baudelaire. Je vous cite Baudelaire, on pourrait citer quelqu'un d'autre, mais j'ai suivi avec Claude Biget cette analyse-là. L'espèce de l'amour triste, qu'après l'amour on est triste. Ça c'est proprement goy grec. Vous voyez ce que je veux dire, la fin de la nuit au cabaret, c'est cette grande... Ça laisse la bouche amère de la fête qui a fini, le monde de la dérision, il faut être sauvé de cela. Et alors il n'y a pas pire que le cabaret grec. Le cabaret pieux, et où on voit le... ça y est, c'est clair. Vous comprenez ce que je vais de ne pas dire. Et où on voit qu'après la fête du rite, on a le même goût d'amertume dont Baudelaire parle après l'amour triste. Vous voyez, d'essayer de se droguer saintement, parce que ça se fait pas de se droguer rive gauche. Alors on se drogue... voilà, ça y est, c'est compliqué. Enfin, ce que je veux pas dire. C'est cette vision-là. Alors, on va essayer de terminer le paragraphe en lui-même. J'ai l'habitude de citer Pascal comme exemple de ce grec qui veut devenir hébreu et qui n'arrive pas de finir d'être chrétien. Alors, il y a les deux choses parallèles. Vous voyez, il y a la tragédie grecque dans Pascal et l'espérance hébraïque, mais cette espérance hébraïque n'arrive pas à être greffée sur la tragédie grecque. Cette espèce d'homme de la piété angoissé, d'homme de la piété désespéré. Et c'est... Pascal est très probablement le plus protestant des catholiques, mais il est à la frontière entre le catholicisme et le protestantisme. Mais il est bien évident que c'est là que ce conflit s'est cristallisé. Donc une pensée de type pascalien, qui, comme vous le savez, est existentialiste, philosophiquement est existentialiste centralement. Et on voit que le Ravoutner a très bien diagnostiqué ce type d'homme qui veut découvrir le salut en découvrant la volonté d'un créateur, mais qui finalement ne tombe que dans cette fascination de la détermination qui a été propre à la conscience grecque. Et lors même que l'espérance hébraïque lui est entendue, elle reste artificielle, elle reste, la grève n'a pas prise. Vous connaissez ce texte des évangiles concernant la grève de l'olivier sauvage, de l'olivier domestique sur l'olivier sauvage, la grève n'a pas pris. Et la preuve, c'est cette espèce de conscience désespérée que garde l'homme de religion occidentale lors même qu'il parle de la Torah du Sinaï. Il reste de conscience tragique. C'est pourquoi je dois dire que toutes les tendances de la chassidoute, de la joie, ont voulu lutter contre cela. Et que le conflit reste ouvert dans la société. Vous avez le fameux conflit entre la vision de la volonté de Dieu au niveau de la Torah, mais à la manière des lois de la nature, vérité absolue, vous voyez, cette dignité rigide de Emmet, ou alors au contraire, l'autre aspect que le détermine, l'aspect de chesed, de gentillesse, de générosité, de la personne qui parle comme personne à la personne, pas à travers les conditionnements naturels, mais d'âme à âme, de cœur à cœur, de lèvre à lèvre, et ça c'est la chassidoute. Les deux visions du Sinaï, un Sinaï qui ressemble